Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Félix Antoine Tshisekedi rend hommage au FARDC, mais fustige l'infiltration de l'armée par les forces rwandaises dans les opérations de mixage et brassage. Il s'est ainsi exprimé au lendemain de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui reconnaît l'agression de la RDC par le Rwanda. Goma, en émoi ce dimanche, la toile s'enflamme avec des images des corps des jeunes gens tués par balles et empilés dans une construction inachevée. Cela ressemble à des exécutions sommaires aux environs du camp militaire Katindo. D'autres personnes avancent l'hypothèse d'une tentative de recrutement forcé qui se serait heurtée à une résistance. Le point dans ce journal. Et puis, nous recevons maître Raphaël Nyabirungu, professeur émérite et pénaliste. Il vient de tenir des séances de formation publique sur le droit pénal à Kindu. Pour lui, le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix. Madame, messieurs, bonjour. Nous sommes en train de reconstituer une armée professionnelle et bien prise en charge. Je suis un homme de dialogue, mais je ne veux pas un dialogue avec ceux qui travaillent pour des intérêts étrangers. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé en ces termes hier samedi en face de tous les partenaires politiques, membres de l'Union sacrée à Kinshasa, rassemblés pour une moralisation et faire lecture de la situation militaire, diplomatique et politique. Le président de la République tend la main à d'autres force politique et annonce un nouveau directoire de la majorité présidentielle, le compte-rendu de Billy Vandutumba.
Cette réunion qui se tient au lendemain de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui reconnaît l'agression de la RDC par le Rwanda a été une occasion pour Félix Tshisekedi de saluer les efforts de tous ceux qui se sont impliqués dans ces démarches pour arracher cette condamnation. D'après une dépêche des services de communication de la présidence, le chef de l'État a toutefois noté, je cite, « L'ennemi n'est pas seulement celui que vous voyez, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose et je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion, elle ne se transformera pas en réalité parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. » Fin de citation. Sur le plan militaire, Félix Tshisekedi rend un vibrant hommage aux hommes des troupes dont il reconnaît la bravoure malgré le problème d'encadrement. Il fustige pendant l'infiltration de notre armée par les forces rwandaises dans les opérations de mixage et brassage. Quant à la question du dialogue, le président de la République s'est dit favorable à parler directement avec les pays agresseurs. Un dialogue qui n'aboutirait pas au brassage et mixage selon ses propres termes. En sa qualité de première autorité de l'Union sacrée, il appelle ses partenaires à l'unité nationale. Il annonce dans la foulée la mise en place d'un nouveau directoire de l'Union sacrée de la nation et tend la main à d'autres forces politiques dans la perspective de la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Pour sa part, le président de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Pukin émet des réserves quant à la finalité du dialogue prôné par les églises catholiques et protestantes. Dans une déclaration faite samedi à Kinshasa, professeur David Lubo dit se référer à l'histoire de la RDC où tous les dialogues n'ont abouti qu'au partage du pouvoir. Professeur David Lubo exprime ses appréhensions au micro de Alain Rumushinji.
C'est mieux avant de parler du dialogue de s'interroger en faisant une démarche diachronique pour savoir quels sont les différents résultats des dialogues connus au Congo. Et la dialectique voudrait que l'on dise tout de suite que tous ces dialogues n'ont abouti qu'au partage du pouvoir. Celui prôné par les acteurs actuels sera-t-il différent en termes de résultats? Qu'on nous dise alors quel est le véritable sens du dialogue dans ce pays. Nous devons éviter les subterfuges, nous devons éviter les alibis, nous devons plutôt savoir que ceux qui prônent les dialogues, la vérité qui se cache, c'est qu'on finira par faire entrer les rebelles dans l'architecture institutionnelle. Ça doit être dit par rapport au passé. Quand ils disent, par exemple, qu'on ne parlera pas du partage du pouvoir, c'est tout simplement incongru. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont pris les armes? Gardez vos armes, restez, on vous payera sans travailler. Mais qu'on nous dise un peu, c'est quoi au juste?
Vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi une résolution qui condamne fermement l'offensive menée par le M23 en RDC et les avancées réalisées dans les provinces du Nord et Sud Kivu avec le soutien de la force de défense rwandaise. Présentée par la France, le texte exige la cessation des hostilités, invite toutes les parties à conclure un cessez-le-feu et appelle au retrait immédiat du M23 et de ses alliés rwandais. En RDC, cette décision divise les acteurs sociaux. Si les uns y voient une victoire diplomatique, d'autres déplorent la non-consistance des sanctions ciblant les acteurs clés du conflit. Ronéline Tibonera nous en parle.
C'est un premier pas important dans cette bataille diplomatique menée par la RDC contre l'agression de son pays, estime Moïse Aliéguéra, cadre influent du MLC.
Que depuis le début de cette crise, non seulement nos forces de défense et de sécurité s'engagent inlassablement, mais aussi nous avons les présidents de la République ainsi que les peuples congolais qui se sont mobilisés pour mettre fin à cette agression.
Du côté de l'opposition, l'on regrette que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'ait pas pris le courage de sanctionner les autorités actuelles, car étant à la base du problème, dit Ferdinand Kambere.
Le Conseil de sécurité ne peut plus simplement envisager une solution qu'en laissant Félix avec son gouvernement contesté par l'opposition interne et par la société civile, et croit que c'est elle qui va négocier cette paix lorsqu'il est accusé de plusieurs accords par les autres.
Jean-Chrysostome Kidjana, acteur social du Sud Kivu, plan les côtés non coercitifs de la résolution. Il craint que cela ne puisse faire perdurer la violence dans la région.
Nous ne sommes pas totalement satisfaits aussi longtemps qu'il n'y aura pas de sanctions précises, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de contraintes.
Malgré cette résolution, la tension restait vive dans l'est de la RDC.
Pendant ce temps, la Fondation internationale Issa Hayatou demande à la CAF, Confédération africaine de football, à la FIFA, Fédération internationale de football association, et au Comité international olympique d'exclure le Rwanda de toutes les compétitions internationales, ce à cause des crimes que le M23 et l'armée rwandaise commettent dans l'est de la RDC. En effet, la Fondation internationale Issa Hayatou a pour mission de promouvoir la paix par les sports et le développement du football des jeunes en Afrique. Le président de cette structure, Anoy Nini Bakastro, a fait cette requête au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa. Il demande par la même occasion à la CPI de s'auto-saisir de la situation dans l'Est congolais pour lancer un mandat d'arrêt international contre Kagame, président du Rwanda, et Corneille Nanga, chef de la rébellion AFC M23. Écoutez plutôt Anoy Nini Bakastro dans ses propos recueillis par Vanessa Kongolo.
La Fondation internationale Issa Hayatou rappelle que la Russie, pour avoir envahi l'Ukraine, a été exclue de toutes les compétitions de la FIFA, de l'UEFA et du Comité international olympique. Ainsi, au regard des tueries en masse perpétrées dans l'Est du Congo par le Rwanda et le M23, où le football ne se pratique plus, entraînant la déstabilisation du football congolais dans son ensemble, la Fondation internationale Issa Hayatou invite la FIFA à exclure le Rwanda de toutes les compétitions de football. La Confédération africaine de football, la CAF, a soutenu par la même occasion sa requête relative à la saisine de la FIFA. La Fondation internationale Issa Hayatou a donc décidé de diligenter une mission auprès de ses institutions et auprès du Comité international olympique. La Fondation internationale Issa Hayatou voudrait demander aux puissances occidentales à mettre fin à la livraison d'armes au Rwanda qui endeuille les enfants d'Afrique au risque de continuer d'être comptable devant l'histoire de la déchéance de notre continent.
Parlons à présent de ce drame à Goma. La ville est en émoi ce dimanche. La toile s'enflamme avec des images de dizaines de corps des jeunes tués par balles et empilés dans une construction inachevée. Pendant ce temps, un tweet attribué au ministre congolais de la Communication et des Médias parle d'une dizaine de jeunes inoffensifs exécutés en plein jour dans l'après-midi de samedi 22 février au quartier Katoy dans la ville de Goma. Reportage de Chris Mukand rendu par Jude Mister Bilanda.
Cela ressemble à des exécutions sommaires dans les environs immédiats du camp militaire Katindo. La plupart des victimes sont notoirement connues des habitants du quartier. Elles auraient été regroupées dans ces lieux et exécutées sans sommation. Des témoignages par des audios en rajoutent à la confusion. L'un d'eux parle de jeunes trouvés par les rebelles du M23 dans un repère des consommations de chanvre et des boissons fortement alcoolisées, ce qui leur a valu cette fusillade après dénonciation. D'autres, en revanche, avancent l'hypothèse d'une une tentative de recrutement forcé qui se serait heurtée à une résistance. Toujours est-il que les habitants du quartier Katoï, en commune de Karisimbi, vivent la terreur. Les quartiers auraient été quadrillés toute la nuit par les rebelles. L'on parle même d'incursion dans le domicile d'où certains jeunes auraient été tirés et ramenés sur les terrains d'abattage. Au passage, des jeunes filles auraient été abusées sexuellement. C'est dimanche matin que les corps sont récupérés par les rebelles à bord des véhicules, apprenons-nous de nos sources.
Dans le même registre, les organisations féminines haussent le ton pour dénoncer le calvaire que traversent des centaines de familles, des militaires et des policiers chassés des camps Katindo et Munzenze et qui errent dans la ville de Goma par manque d'abri. Ces familles ont trouvé refuge dans les écoles et d'autres regroupées dans les quartiers aux alentours du camp Katindo. Mais elles font régulièrement l'objet de répressions de la part des rebelles car ces derniers n'autorisent pas la population d'ériger des sites de personnes déplacées. Nelly Lumbulumbu, responsable d'une plateforme d'organisation féminine du Nord Kivu, plaide en faveur de ces familles en détresse et sollicite l'intervention de la communauté internationale afin de faire pression pour obtenir un couloir humanitaire et assister ces personnes abandonnées à leur triste sort. Nelly Lumbulumbu est jointe par Sifa Maguru.
Nous sommes en train de plaider pour d'abord l'ouverture du couloir humanitaire qui permettra d'aider toutes ces familles qui sont en difficulté. Parce que là, je sais que la communauté internationale est en train de se mobiliser pour que toutes les personnes qui sont dans la détresse puissent en fait être soulagées. Et cela ne peut être possible que si le couloir est ouvert. Nous demandons également au gouvernement de la RDC de prendre des mesures afin de pouvoir aider toutes ces familles qui vivent à ce stade dans la précarité, qui vivent dans la vulnérabilité totale. Ces familles manque de tout, on le sait, elles ne sont pas assistées et dans la ville on sait qu'elles sont en train d'errer ici et là. Et notamment nous demandons à tous les habitants de la ville de Goma de penser à toutes ces familles, nous sommes ensemble et nous pensons que si déjà au niveau des différentes communautés on peut s'organiser pour aider ces familles qui vivent en tout cas dans une totale précarité, dépourvues de tout, ça peut aider.
Rappelons que la plupart de ces familles n'ont pas où aller parce que non originaires du Nord Kivu, d'autres n'ont plus des nouvelles de leurs maris militaires et policiers, disent-elles. Parmi elles, il y a également des blessés et des personnes vulnérables, explique l'une des épouses des militaires. Du côté de l'Ituri, 7 morts dont 2 agents de l'administration du territoire de Djougou, plusieurs maisons incendiées et des populations en déplacement. C'est le bilan d'une nouvelle attaque de la milice Codeco la nuit de samedi à ce dimanche au camp Platon, proche de Djougou Centre. D'après des sources locales, ces violences à répétition suscitent la colère de la population qui fustige la léthargie des FARDC dont la position est située non loin du lieu du drame. Récit des faits avec Isaac Remoyope.
Ces assaillants munis d'armes blanches ont envahi vers minuit le camp Platon situé à environ 700 mètres du bureau de l'administration du territoire et d'une position de l'armée à Djougou Centre sur la route nationale numéro 27. Ils se sont introduits dans des maisons où ils ont découpé des occupants à la machette. Parmi les victimes, il y a un agent retraité de l'administration territoriale et un autre qui s'occupait de l'assainissement. Des femmes et un enfant étaient également tués par ces inciviques qui ont incendié quelques maisons, rapportent des sources de sécurité. Des centaines de personnes composées essentiellement des femmes et des enfants des villages proches des Djougou Centre ont trouvé refuge, entre autres à Lopa et à Iga Barrière, à une vingtaine de kilomètres, ajoutent les mêmes sources. Cette attaque est perpétrée après plusieurs menaces de ces groupes armés et le meurtre de 2 personnes il y a environ une semaine dans une localité proche. Les notabilités locales fustigent l'inaction des FARDC pour contenir les violences de ces groupes armés. L'administrateur du territoire des Djougou, Rifé Makwela, indique que ces hommes armés se faufilent pour contourner les positions des FARDC qui sont en alerte dans les milieux et que des dispositions sont en train d'être prises pour renforcer les effectifs de l'armée en vue de démanteler ces miliciens réfractaires au processus de paix en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, le couvre-feu instauré par le gouverneur du Haut-Katanga dans les villes de Lubumbashi et de Likasi pour une période de 30 jours est arrivé à son terme depuis le 20 février dernier. Cependant, l'ONG de défense des droits de l'homme, Justicia Asbel, sollicite que cette mesure exceptionnelle soit prolongée au regard de la baisse de la criminalité enregistrée dans ces villes durant cette période. Pour cette ONG, la prolongation devrait tenir compte de certaines failles constatées sur le terrain. Timothée Mbuya, président de Justicia Asbel, s'explique au micro de Jean Gandou.
Justice à Isbel, après avoir fait le monitoring, est arrivée à la conclusion que les cas d'insécurité ont effectivement diminué très sensiblement dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Et cela est dû à la faveur du couvre-feu tel qu'il a été instauré par l'autorité provinciale. Justice à Isbel demande donc la reconduction de ces couvre-feux dans la mesure où on ne peut pas à ce jour dire que l'insécurité a été totalement éradiquée. Et donc c'est pour cette raison que Justice demande aux autorités de reconduire ces couvre-feux pour une autre période pouvant aller à la même durée, mais que des mesures correctives soient prises, notamment pour les failles qui ont été décelées ça et là. Les bandits commencent à opérer dans certains coins plus ou moins avant à l'heure du couvre-feu, dans des milieux assez reculés où il n'y a pas suffisamment d'éclairage, il n'y a pas suffisamment d'éléments de sécurité. Justice demande que on puisse renforcer les forces de patrouille, qu'on prenne des mesures pour éviter que le checkpoint ne se transforme en barrière pour rançonner ceux qui rentrent à la maison à des heures tardives.
Justement, par rapport à la requête de Justice à Isbel, nous venons d'apprendre que le gouverneur du Haut-Katanga a signé un arrêté prolongeant le couvre-feu de 15 jours. Il va jusqu'au 6 mars prochain. Parlons santé à présent. Province du Bas-Ouélé, la maladie de monkeypox observée au début du mois de janvier dernier dans le territoire d'Ango est quasiment maîtrisée. C'est ce qu'affirme le médecin directeur de l'hôpital général de référence de la zone de santé d'Ango. Hormis un cas de décès enregistré dans la localité de Dakwa, aucun autre cas n'est rapporté jusqu'à ce jour, affirme le docteur Prince Kwandi. Selon lui, ceci est le résultat d'une sensibilisation permanente de la communauté contre cette maladie. Docteur Prince Kwandi, joint par Jacques Moukonkole.
On a pris des mesures préventives pour sensibiliser. Il y a les infirmiers titulaires du centre de santé qui ont été briefés par rapport à la prévention des monkeypox. À son tour, il est parti sensibiliser les relais communautaires. Comment prévenir, comment que Fox, à part les derniers cas qu'on a réussi à Dakwa, malheureusement c'était un bêta, il y a un décès, mais jusque-là, il n'y a pas encore de signes ou symptômes qui se manifestent. Nous continuons à veiller chaque jour, même à la radio, chaque fois qu'il y a la réunion du comité de gestion au niveau des aires de santé, nous sensibilisons toujours. Il y a les écoles d'abord, églises et aussi à travers les mégaphones que les relais communautaires sensibilisent parce que c'est un fléau qui ronge le monde. Tout cas des éruptions cutanées constitue un cas d'alerte pour nous.
Actualité internationale. Nous sommes au Chili. Des enfants volés de la dictature retrouvent leur famille 40 ans plus tard. Quatre Américaines ont rencontré pour la première fois hier samedi leur mère biologique ainsi que leurs frères et sœurs. Elles font partie des milliers d'enfants adoptés illégalement entre 1960 et 1990 au Chili. La majorité de ces adoptions se sont produites pendant la dictature d'Augusto Pinochet. Et puis, sachez que l'état de santé du pape François reste critique et le pronostic est actuellement réservé, indique le Vatican dans un communiqué. Le Vatican parle d'une crise asthmatique respiratoire. Le souverain pontife ne pourra présider ce dimanche sa traditionnelle prière d'Angelus, à laquelle il a déjà dû renoncer le week-end dernier.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Maître Raphaël Nyabirungu Mwenesonga, professeur émérite et pénaliste. Il a tenu ce week-end des séances de formation publique sur le droit pénal à la faculté de droit de l'université Mapon à Kindu. Il rappelle que le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix. Professeur Nyabirungu est avec Florence Kizalunga.
Professeur Raphaël Nyabirungu, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'inculquer quelques notions de droit pénal aux étudiants de la faculté des droits de l'université Mapon, mais aussi à la crème intellectuelle du Manima. Est-ce qu'on peut savoir d'abord, c'est quoi les droits pénals?
Les droits pénals, c'est un ensemble de règles qui déterminent les comportements punissables et les peines qui leur sont applicables dans une société donnée. Mais c'est une très bonne chose, une très bonne initiative. Et nous sommes heureux qu'on nous ait donné l'occasion d'accompagner la faculté des droits au stade de sa fondation. Par nos leçons publiques des droits pénals, nous pensons avoir aussi apporté une pierre à la construction de l'édifice. Donc nous sommes heureux que nous ayons communiqué notre expérience à des jeunes générations montantes. C'est un plaisir, c'est un gain pour la nation et pour nous tous.
Pourquoi est-il important de connaître les droits pénals ?
C'est pour tout le monde qui veut la paix et le développement, il ne peut qu'apprécier la production des connaissances en droit, leur partage et leur diffusion. Le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix.
Et au Congo, c'est respecté?
C'est quand ces droits nous manquent que les droits deviennent indispensables.
Alors, au regard de la situation actuelle de guerre à l'Est, où le Rwanda est accusé comme agresseur dans le droit pénal international, quelles sanctions réservées au pays agresseur et quelle juridiction qui sera compétente pour le faire?
Le droit international pénal ne s'adresse pas aux États, mais s'adresse aux individus. Ce sont des individus qui engagent leurs responsabilités, qui peuvent répondre devant les tribunaux pour des crimes éventuellement commis.
Professeur, dans votre adresse, vous avez dit que dans l'histoire des crimes contre l'humanité et autres exactions, il a été révélé que l'une des causes de l'enclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'impunité des crimes commis à la Première Guerre mondiale. Alors, face aux crimes et massacres à répétition en RDC et à l'échec de l'instauration d'un tribunal spécial pour les Congos, en tant que pénaliste, quel conseil est donné au gouvernement congolais pour mettre fin à ces crimes étant donné que le présumé auteur sont en libre circulation?
Le premier conseil qu'on peut donner au gouvernement congolais, c'est de donner des moyens suffisants à nos juridictions, de manière qu'elles soient en mesure d'enquêter, de juger, éventuellement de condamner, de réclamer des dommages et intérêts vis-à-vis de toutes les personnes impliquées à un titre ou à un autre. Des moyens d'abord.
Est-ce que le rapport Mapping restera toujours sans issue?
C'est la même question. Tant que le gouvernement congolais ne s'implique pas davantage en donnant à nos cours et tribunaux la possibilité de s'acquitter de leur mission de juger, les rapports Mapping risquent de rester sans issue. Remarquez que c'est depuis bientôt 15 ans que ce rapport est sorti et aucune initiative pour poursuivre les nombreux incidents qui avaient été relevés, qui sont au-delà de 600. Donc, on est dira jamais à ce gouvernement combien il est nécessaire que les crimes commis sur notre territoire soient punis pour prévenir d'autres crimes, pour servir d'exemple à d'autres qui seraient tentés de commettre les mêmes crimes.
En RDC, il a été confié aux juridictions militaires de se saisir des crimes de la compétence de la CPI. Est-ce que cette juridiction en a les moyens d'enquêter dans les zones occupées?
D'abord, ces juridictions n'ont plus de compétences. Depuis les lois du 31 décembre 2015, aujourd'hui, les juges naturels des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est la cour d'appel qui siège dans chaque province, en tenant compte que Kinshasa compte deux cours d'appel. Ce sont elles qui sont les juges naturels pour juger les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Professeur Raphaël Nyabirongo, je vous remercie.
Je vous en prie, merci aussi.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.